Sophie Tessier, qui, entre autres, en plus d'être au Jardin botanique, travaille avec l'équipe de 1000 jours pour la planète. Et on parle de plantes encore, puisque vous nous aviez mis sur la piste du mouvement il y a 2 semaines. Et là, c'est sur la piste de la communication entre la plante et nous, entre la plante et la plante. Est-ce qu'il y a peut-être plantes et animaux?
Ben,
Non, hein, ça ne va pas jusque-là.
je vais vous révéler tous les
OK.
secrets aujourd'hui,
OK.
mais si j'avais fait ça il y a 25 ou 30 ans, on m'aurait prise pour un peu une hurluberlue. Et c'est ce qui est arrivé aux premiers biologistes qui ont tenté la chose, ont eu une curiosité envers la communication chez les plantes. Mais aujourd'hui, il y a eu des centaines et des centaines d'expériences, autant en nature qu'en laboratoire. Et puis, c'est un fait maintenant, et la communauté scientifique acquiesce. Donc, ça existe. Pour y avoir communication, bien évidemment, il faut avoir des outils ou des organes qui envoient un message, mais surtout un destinataire qui va capter, décoder le message.
Parce que j'ai déjà, plus jeune, lu des résultats d'une étude où il y avait un graphique qui se faisait, on pouvait constater la réaction, que ce soit lorsqu'une personne que la plante n'aimait pas s'approche de lui ou de la musique. Mais comment la plante signifie cette, disons,
Comment elle démontre?
ouais.
Ben, les plantes, ils n'ont pas de système nerveux central comme nous ou d'autres animaux, puis encore moins un cerveau. Alors, la communication, elle est chimique. On peut comparer ça à des odeurs, hein, c'est des molécules qui vont se disperser dans l'air. Mais c'est des odeurs le plus souvent qui sont imperceptibles pour nous.
OK, des odeurs.
On appelle ça des composés volatiles organiques et c'est toutes sortes de molécules. Chaque plante a en fait son petit cocktail, sa petite recette et envoie ça, c'est transporté par le vent, la brise. On parle comme type de composé des terpènes. Il y a beaucoup de terpènes, par exemple, dans les résines des conifères. Toutes sortes d'alcools, des méthyles comme le salicylate de méthyle, jasmonate de méthyle, des acides. Enfin, c'est des noms bien compliqués, mais le salicylate de méthyle, en fait, on le connaît assez bien sans savoir que c'est ça. C'est le fameux goût quand on mange de la gomme au wintergreen. Le wintergreen, là, il contient du salicylate de méthyle. Alors, quand on, par exemple, on coupe le gazon, hein, on passe la tondeuse, outre l'odeur d'essence qui émane de la tondeuse, on obtient une odeur
Du gazon
quand
fraîchement
même,
coupé.
oui, quand même assez agréable.
Que nous, on aime beaucoup, mais en fait, le gazon nous dit qu'il est en terre. C'est
En
ça?
fait, la plupart du temps, les plantes vont communiquer pour se défendre. Alors, cette odeur bien agréable pour nous est en fait un message d'alerte. Les plantes vont émettre un message d'alerte pour soit alerter l'entourage d'autres plantes de la même espèce. Et on a pu vérifier, ça a été mesuré, que les plantes vont avoisinantes, même si elles ne sont pas attaquées par soit un animal ou un insecte herbivore, ou peu importe, bactéries, virus, moisissures, ils vont réagir. Comment les plantes peuvent réagir? Je vais vous donner un exemple d'une plante qui a été testée par... Il y a deux chercheurs qui se sont beaucoup intéressés, qu'on retrouve dans la littérature, là, beaucoup, beaucoup. Il y en a un qui s'appelle M. Ian Baldwin, puis l'autre, c'est James Cahill. Et M. Baldwin, lui, il a regardé en particulier une plante qui est la nicotine. C'est proche de notre plante à nous, là, le tabac, une nicotine sauvage qui pousse en nature. Il a regardé qu'est-ce qui se passait avec cette plante-là quand, par exemple, la plante se faisait brouter par une chenille. Donc, il a mesuré toutes sortes de données autour de la plante, puis a entre autres remarqué que aussitôt que la plante reçoit cette chenille, eh bien, le taux de nicotine augmente significativement, c'est-à-dire que la nicotine va être soit inhibiteur de croissance chez la chenille, donc
Ah oui, hein?
c'est vraiment toxique pour la chenille.
Tant pis pour elle.
Et à un moment donné, la chenille va tellement être dérangée par ce taux-là de nicotine élevé qu'elle va tout simplement aller voir ailleurs. Non seulement ça, mais là, Luc, vous posez tout à l'heure, est-ce que les plantes peuvent interagir avec d'autres animaux? ou autre chose, mm-hmm. puis c'est là que ça devient super intéressant, c'est que la plante va émettre un composé organique volatile, donc le petit cocktail d'odeur, et ça, ça peut être capté non seulement par des plantes avoisinantes, mais par des insectes.
Okay.
Il y a un insecte qui est, dans le cas de la nicotine, une punaise qui aime beaucoup attaquer la chenille qui broute la nicotine. Et cette punaise-là va détecter le composé volatile et va venir automatiquement, va être attirée, va s'approcher, puis va trouver la chenille et va soit l'attaquer directement ou pondre son œuf à l'intérieur de la chenille. Ça arrive souvent dans le monde des insectes. Il y a des insectes parasitoïdes qui vont pondre dans d'autres insectes ou d'autres larves d'insectes.
Mais, malgré ce que vous nous racontez, je veux dire, la chenille a quand même le temps de manger ce qu'elle a envie de manger de la plante, là.
Ça se fait, ça se fait assez rapidement.
Ah, oui?
Le composé est émis assez rapidement, puis l'insecte réagit aussi rapidement. Mais encore mieux, hein, puis c'est presque... On a de la difficulté à y croire. Mais M. Baldwin a aussi remarqué que la nicotine en question, elle émet un petit liquide sucré que la chenille adore. Mais c'est un genre de petit bonbon empoisonné.
C'est un piège.
C'est, mm-hmm. c'est comme la lame de rasoir là, dans la pomme hein, à l'Halloween. La chenille va manger le petit liquide sucré, mais ce liquide-là, en fait, contient quelque chose qui va dégager une odeur chez la chenille. Donc, la chenille mange ça, elle dégage une odeur et cette odeur-là attire soit des reptiles ou autres animaux qui adorent manger
Okay.
cette chenille. Alors, on peut penser que, ben, on se dit, est-ce que c'est vraiment de la communication ou c'est que, dans le fond, les insectes puis les animaux se sont adaptés, ont par hasard un jour trouvé que quand on capte cette odeur-là, ça veut dire qu'il y a de la nourriture ou ça veut dire qu'il y a une proie à parasiter. Mais chez les plantes, ils s'adaptent en fait à émettre des composés selon ce qui se passe. Parce que si moi, j'accroche une feuille de nicotine, ça ne va pas nécessairement déclencher le composé en question. Alors, comment les plantes peuvent savoir qui les mange, par qui elles se font attaquer? Bien, elles sont capables de repérer l'ennemi par des enzymes contenues dans la salive. Alors, ça va donc assez loin. On parle presque, je dis presque, d'intelligence à ce moment-là chez les plantes parce que là, le message envoyé, il est très spécifique en quelque sorte.
De parler aux plantes, c'est vrai que ça donne un effet positif à non seulement notre lien, mais à la verdure ou la floraison ou...
Bien,
c'est surfait?
Si notre lien, j'ai pas très bien compris la question.
Ça vaut la
en
peine
fait,
de parler aux plantes?
Bien, de nous, là, avec des mots, vous voulez dire?
Bien là, vous parlerez comme vous voulez, là.
Parce qu'on peut parler aux plantes en utilisant des composés synthétiques, mais composés des mêmes molécules. Même que c'est en agriculture, c'est quelque chose qui encore est en expérimentation, mais qu'on regarde parce qu'on se dit... Mais moi, au lieu d'étendre quantité de pesticides, disons, qui souvent c'est nocif pour l'environnement, puis en plus, ça crée de la résistance parce que souvent, les pesticides ou les insecticides sont faits de telle sorte que ça va tuer en bout de ligne l'ennemi. Donc, les survivants, quand il y en a, ils deviennent de plus en plus résistants. Mais là, on parle juste de repousser l'ennemi. Mais... Dans le fond, votre question, c'était plutôt, je pense, est-ce que de parler, là, de chouchouter notre plante, est-ce que la plante peut nous entendre, de un? Est-ce que la plante peut comprendre ce qu'on dit?
Et est-ce qu'elle aime ça?
Et est-ce qu'elle aime ça? Il y a eu plusieurs... il y a un peu un mythe autour de ça. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent qu'ils ont testé en laboratoire, ça n'a aucun effet. Il y en a plutôt qui pensent que quand on parle... proche de la plante, en fait, on émet du dioxyde de carbone en plus grande quantité et cette plante va donc capter le dioxyde de carbone et va l'absorber pour son bénéfice. Mais surtout aussi, c'est que quand on lui parle, on peut peut-être remarquer que Ben oui, la terre est un peu sèche, finalement, je devrais l'arroser.
C'est ça, on est plus attentif.
Exactement.
Ben, ouais.
Mais saviez-vous, Luc, qu'il existe... vous savez, les Japonais sont forts hein, sur les inventions.
Mm-hmm.
Ils ont inventé une petite sonde décorée là, en forme de petit bonhomme. Une sonde qu'on plante dans la terre, dans notre peau, de notre terreau. Et cette sonde-là est capable de détecter si la plante a besoin d'être arrosée ou non. Et cette sonde-là est reliée à notre téléphone cellulaire. Et il y a des messages préfaits.
Faut que tu rentres à la maison, plante a besoin de
exactement,
toi.
C'est très drôle. Vous irez voir ça sur Internet. Alors, la personne reçoit un appel et c'est un message qui dit « Bonjour, c'est ta plante ». Franchement, j'aurais besoin d'être arrosée. Ça fait 2 jours que je t'attends, etc., etc. Donc, c'est bon, ça, c'est pour rire, hein, c'est des bidules.
Non, mais c'est ça peut quand même nous motiver parce que si ce n'est que de mettre l'application dans notre téléphone, ça va faire en sorte qu'on va y penser davantage. Souvent, c'est juste ça. C'est de en parlant ou en mettant l'application ou en faisant des choses comme ça, ben c'est pas que la plante est plus heureuse à cause de notre effort, mais simplement parce que nous-mêmes, on y travaille mieux.